Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour, bienvenue à ce cours de physique mésoscopique et merci pour votre participation. Donc, nous allons continuer ce que l'on avait commencé la dernière fois. Comme à chaque séance, je vous rappelle que vous pouvez suivre, vous pouvez obtenir les transparents de ces exposés sur le site du Collège de France. Ce qui vous a été distribué à l'entrée de cet amphi et le cours de la dernière fois, je pense que nous aurons à partir de la fois prochaine à la fois les transparents, le tirage de cette leçon et celle de, ceux de la leçon suivante. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse. Si vous avez des questions ou des corrections, elles sont toujours les bienvenues. Une annonce importante, donc tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Steve Gervin de l'Université de Yale qui nous parlera d'expériences sur les qubits supraconducteurs dans le régime de l'électrodynamique quantique, un sujet d'ailleurs dont je vais donner une introduction dans ce cours. Donc là, on aura une liaison assez étroite aujourd'hui entre la leçon et l'exposé. Je voudrais aussi annoncer le séminaire de la semaine prochaine qui sera donné par Charlie Marcus. Là, plutôt sur les systèmes semi-conducteurs, ça fera suite à l'exposé de Christian Glatley. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la discussion de la non-linéarité des systèmes à base de jonction tunnel. Et donc, je voudrais aussi parler aujourd'hui d'expériences sur ces circuits hors équilibre, lesquels, en fait, ont pour but de lire, d'obtenir de la lecture des bits quantiques. Voilà le plan très succinctement. Et je vais continuer au début de cette leçon un thème que j'avais abordé la dernière fois, qui était la discussion de la nature de la phase supraconductrice dans ces circuits quantiques. Donc je vous rappelle qu'on définit la phase comme une intégrale spatio-temporelle du champ électrique. Et là, donc, Patrice Roche avait posé cette question importante qui était de savoir si on devait inclure aussi les contributions du potentiel chimique. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que cette intégrale, il faut la comprendre comme finalement une double intégrale à la fois sur le temps et l'espace de toutes les forces qui agissent sur les électrons. Donc, en fait, ce qu'on appelle la contribution du potentiel chimique, c'est aussi des forces, finalement, de Coulomb, mais qui ont été modifiées par, finalement, le principe de Pauli. Mais, finalement, cette expression est tout à fait générale. C'est le travail, lorsque les électrons passent d'un point d'une électrode de la jonction à l'autre, c'est l'intégrale temporelle du travail des forces agissant sur un électron test. Donc c'est une grandeur tout à fait générale. Alors on avait vu aussi la dernière fois que ce qui constituait la grandeur conjuguée de la phase, de ce flux généralisé, qu'on peut écrire aussi sous forme d'une phase en divisant par le quantum de flux, en fait, nécessitait de connaître le Lagrangien du circuit dans son ensemble. On écrit facilement le Lagrangien de la jonction en parallèle avec sa propre capacité, mais le reste du circuit est un environnement électromagnétique qui peut être assez complexe. En général, si le circuit est linéaire, peut être caractérisé par cette impédance qui est donc une fonction de la fréquence. Et donc tout le problème se résume à finalement écrire cette partie du Lagrangien qui fait intervenir cette impédance extérieure. Et c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à phi point qui va définir le moment conjugué, la charge conjuguée à la phase. Donc ça, cette charge conjuguée va dépendre du circuit et sa nature, sa topologie dépend du circuit. Alors là, il est bon d'introduire quand même quelques définitions. Donc si on prend cette impédance extérieure et qu'on l'inverse pour la transformer en une admittance, on peut considérer une admittance totale vue par l'élément tunnel. C'est donc ce Y total d'oméga, donc dans lequel il y a la contribution de la capacité de la jonction et cette impédance extérieure. Et on va définir deux éléments qui vont caractériser cet environnement extérieur. La capacité, disons, totale, qui se note C indice sigma, et qu'on peut voir comme la limite de cette admittance totale divisée par oméga quand oméga tend vers l'infini. C'est la contribution haute fréquence dispersive de l'environnement. On peut avoir aussi la jonction peut être dans un environnement qui la chinte à fréquence nulle. Et donc, on peut, à ce moment-là, introduire cette inductance effective qui va être donnée par une autre limite, c'est plutôt la limite quand la fréquence va tendre vers zéro, de la partie imaginaire de l'impédance de l'environnement. Là, la capacité là, ne contribue pas. Et donc, ces deux éléments vont donner deux énergies caractéristiques. Donc, l'énergie de Coulomb, E carré sur 2C sigma. Alors là, bon, il y a plusieurs conventions. Dans différents articles, il y aura différentes définitions pour cette énergie de Coulomb. J'ai choisi celle qui est employée couramment à Yale et qui utilise ici la charge de l'électron et non pas la charge des paires de Cooper. Alors ça, c'est pour des raisons uniquement de convenance. Disons que c'est plutôt cette énergie qui apparaît naturellement dans des formules importantes. Mais enfin, vous trouverez aussi beaucoup d'articles dans lesquels l'énergie de Coulomb est définie avec 2E carré ici plutôt que E carré. Alors de la même façon, on peut définir une énergie inductive qui est basé sur cette inductance qui caractérise l'environnement et qui fait intervenir ici le quantum de flux. Donc là, vous voyez apparaître 2E. Il y a bien les paires de Cooper, mais vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de 2 ici au dénominateur, et c'est parce que sous cette forme, cette énergie EL peut être comparée facilement à l'énergie Josephson. Elle peut être directement comparée avec l'énergie Josephson. Vous allez voir ça dans un instant. Donc, on avait vu la dernière fois qu'il y avait deux cas très particuliers d'environnement. Un environnement, finalement, où on avait essentiellement une self pure, ce qui est en parallèle avec la jonction, qui est le cas du squid RF hystérétique, où on peut remplacer ce transformateur ici de flux qui envoie du flux dans cet anneau supraconducteur. On peut imaginer son dual, c'est-à-dire qu'on va remplacer ce transformateur qui est donc magnétique par l'équivalent électrostatique, qui est cette capacité de couplage, et on a à ce moment-là la boîte à paires de Cooper. Donc, dans ces deux cas extrêmes, quel est l'ordre des énergies ? On a ici cette énergie EL est plus grande que l'énergie de Coulomb, et on a l'énergie Josephson qui domine le tout. Alors, vous allez voir que pour avoir l'hystérésis, il faut que cette énergie Josephson soit supérieure à l'énergie inductive. De l'autre, et donc, puisqu'on a choisi, puisque EJ est très grand par rapport à EC, on va être dans un régime où la phase aux bandes de la jonction va être bien définie. Et du fait de la topologie du circuit, du fait de, ce court-circuit à tension nulle, eh bien, la phase, on peut montrer que, comme je l'ai fait la dernière fois, que la grandeur conjuguée de la phase, c'est la charge sur cette capacité ici, et donc cette charge est continue, et donc la grandeur conjuguée de l'impulsion, donc la position, est donc un nombre qui appartient à l'axe des réels. Ce n'est pas du tout la topologie d'un angle ici que l'on a, mais tout simplement la topologie d'une position le long d'une droite. Par contre, dans le cas où on a dans le cas de la boîte à paires de Cooper, comme on l'avait vu la dernière fois, eh bien, la grandeur conjuguée de la phase aux bandes de la jonction, c'est la charge sur ces deux capacités ici. Il y a maintenant non pas une, mais deux capacités. On peut montrer que la somme de ces deux charges ici, en fait, est discrète. C'est la charge qui est passée par l'élément tunnel. Et donc la grandeur conjuguée de la phase est une grandeur entière, donc discrète et en plus entière. Et donc la grandeur conjuguée, la phase aux bornes de la jonction, doit être vue comme une position sur un cercle. Donc l'ensemble de définition de la phase est compact. Et donc dans ce cas-là, on a un petit peu les relations des énergies sont opposées. C'est un petit peu aussi pour ça que, disons, la boîte à paires de Cooper est vue comme le dual un peu du squid RF. Et là, donc, je vous rappelle que ici, la phase où ce flux généralisé tend à être un bon nombre quantique, donc les fluctuations sont très petites par rapport à 1. Par contre, dans ce cas opposé ici de la boîte à paires de Cooper, dans ce régime un peu où l'énergie Josephson est très inférieure à l'énergie de Coulomb, les fluctuations de charge sont faibles. Et c'est plutôt la phase qui fluctue quantiquement. Donc, cette dualité entre le squid hystérétique et la boîte à paires de Cooper peut être vue en regardant le potentiel dans lequel évolue la phase. Donc, vous avez, dans le cas du squid, cette parabole sur laquelle se superimpose la sinusoïde de l'énergie Josephson. Et la signification de la différence entre cette énergie inductive et l'énergie Josephson, ici, apparaît. Cette différence vous donne la courbure ici. Donc, si vous n'avez pas une courbure négative, en fait, vous n'avez pas de puits, le système n'est pas hystérétique et il n'est pas très intéressant. Donc, en fait, pour ça qu'on a toujours cette relation ici où, finalement, EL est inférieur à EJ dans le cas du squid, pour avoir cette courbure négative et de puits. Alors, vous voyez que il y a une chose que j'ai gardée constante entre ces deux parties du transparent. Donc, j'ai gardé l'énergie Josephson constante. Donc, vous avez ici le potentiel cosinusoïdal de la jonction. Il n'y a pas d'énergie inductive, donc il n'y a pas de fond parabolique. Par contre, la présence de l'île, le fait que finalement il y a une électrode isolée, cette symétrie impose pour la fonction d'onde une condition périodique lorsque on fait un tour complet sur le cercle sur lequel est définie la phase. Et cette condition aux limites périodiques, donc le fait que la fonction d'onde ici, lorsqu'elle se reboucle, doit incorporer ce facteur de phase, on peut le voir comme une condition qui remplace le fait que pour le squid, eh bien, cette fonction d'onde ici doit avoir finalement, elle est localisée dans ce fond parabolique. La fonction d'onde est définie sur tout l'axe des réels, mais elle ne peut décroître qu'exponentiellement à l'infini. Donc, elle est normalisable, si vous voulez. Cette fonction ici d'onde, dans le cas du squid RF, est normalisable. Ici, on peut la voir comme c'est une fonction d'onde qui est fonction d'une variable qui est une fonction d'onde périodique, mais avec ses conditions aux limites particulières. Alors, ces deux systèmes, en fait, ces deux cas extrêmes et finalement qui se rejoignent, une autre façon de voir qui se rejoignent, c'est que le spectre est assez semblable. Vous avez un doublet ici, dans l'état fondamental étant un doublet surmonté de niveaux qui sont assez éloignés et très, très anharmoniques. Ici, on a la même situation. Ces deux systèmes sont très proches, en fait, sont dus à l'un de l'autre, mais ils ont une très riche structure de niveaux, mais ils sont très sensibles au bruit. En effet, le flux extérieur ici va ajuster très finement la différence d'énergie entre ces deux puits et finalement modifier la séparation de ces deux niveaux va être très sensible aux valeurs de ce flux extérieur qu'il faudra ajuster très finement si on veut garder la cohérence entre les deux niveaux. Et la même chose se produit ici. Cette condition aux limites périodiques sur la fonction d'onde va aussi agir de façon très sensible sur l'écartement entre niveaux. Pour terminer sur cette question de la dualité, on peut comparer un peu les bases. Donc ces niveaux d'énergie peuvent être vus comme des superpositions linéaires d'états discrets. Alors dans le cas de la boîte, ces états discrets sont simples, ce sont les différents états de charge, la charge qui a traversé la jonction est discrète, et donc les fonctions d'onde vont être une superposition d'états de charge, un peu qui sont représentés ici par ces points verts. La situation est analogue du côté du squid, puisque on aura dans la limite où cette énergie cinétique, ici de cette énergie Coulomb qui joue le rôle d'une énergie cinétique, est faible, on aura la fonction d'onde sera localisée au fond des puits, et donc un état quelconque du système sera une combinaison linéaire de ces différentes fonctions d'onde. Vous voyez qu'on a une situation assez semblable à celle de la boîte, la différence étant quand même qu'ici, la fonction d'onde est en fait un petit paquet d'ondes, donc il y a une certaine extension de la phase, alors qu'ici, le caractère discret de la fonction d'onde est absolu. Il n'y a pas de questions. Non. Voilà, donc ça clôt un petit peu le sujet de cette question de la nature de la phase. Et maintenant, je voudrais, passer en revue un certain nombre de dispositifs dont le but est d'essayer de supprimer cette sensibilité aux conditions extérieures, que ce soit le flux, les variations de flux ou les variations de charge. Donc là, on commence par la boîte à paire de Cooper avec dans le régime où l'énergie Josephson est très inférieure à l'énergie de Coulomb. Donc ce dispositif va être très sensible aux fluctuations du champ électrique ici entre l'électrode de Gray et l'île de la boîte. Et donc la première modification, qui est celle du quantronium, a été de rendre l'énergie Josephson et l'énergie de Coulomb à peu près égales, ce qui, en fait, a pour effet de supprimer cette, cette sensibilité, comme on va le voir. En plus, donc, le quantronium incorporait cette troisième jonction dans la boucle ici. En fait, la jonction Josephson de la boîte à paire de Cooper ici est une jonction bifide avec un trou au milieu qui permet de contrôler la valeur de l'énergie Josephson par ce flux phi extérieur. Enfin, on arrive au transmonde dont va parler Steve Gervin tout à l'heure, qui est en fait le même système, la même boîte à paires de Cooper, mais avec une capacité en parallèle avec la jonction centrale, ce qui permet d'augmenter encore la capacité du système, la capacité de l'environnement, et être dans un régime où l'énergie Josephson devient maintenant très grande par rapport à l'énergie de Coulomb. Alors, donc j'ai déjà présenté ce diagramme. Il permet de voir l'évolution des niveaux d'énergie des systèmes basés sur la boîte à paires de Cooper en fonction de ce paramètre EJ sur EC. Donc, lorsque ce paramètre est nettement inférieur à 1, on est dans ce régime de la boîte à paires de Cooper. On a un système très anharmonique. On a donc, par exemple, lorsqu'on se place pour des charges de grille qui sont discrètes, enfin qui sont entières dans ces unités ici, on a un doublet dans l'état fondamental surmonté de niveaux d'énergie qui sont beaucoup plus loin. C'est une situation très favorable sur le plan d'un atome. Mais en même temps, on a une très grande sensibilité aux variations de charge. Et vous voyez que la situation se modifie lorsque j'augmente ce rapport. Donc, dans le quantronium où le rapport finalement est de l'ordre de 1, on a maintenant une différence d'énergie entre l'état fondamental et le premier niveau excité qui est beaucoup plus molle en fonction de la charge de grille. Mais au fur et à mesure qu'on va augmenter ce rapport EJ sur EC, on va devenir de plus en plus insensible à la charge de grille, mais on a tendance aussi à rendre le système plus harmonique, c'est-à-dire que la différence entre niveaux d'énergie devient plus constante. En fait, la situation n'est pas si mauvaise parce que l'anharmonicité, finalement, décroît de manière polynomiale avec ce paramètre, alors que finalement, l'insensibilité aux charges d'offset est plutôt exponentielle. Donc, on gagne finalement dans ce régime du transmont où on a encore une harmonicité notable et une totale insensibilité aux charges d'offset. Alors, maintenant, si on se place du côté du flux, il y a eu des inventions assez notables pour se débarrasser de la sensibilité du système en flux. Alors, le système d'origine, qui est essentiellement un squid hystérétique, a été étudié à Stony Brook dans l'équipe de Gene Lukens. Il y avait une astuce ici qui était encore de pouvoir moduler l'énergie de Josephson avec cette idée d'une jonction bifide dans laquelle on peut introduire un flux. À Delft, dans l'équipe de Hans Moy, a été développé cet autre type d'atome artificiel basé sur le flux, dans lequel une petite jonction est en série avec deux autres jonctions que l'on peut voir comme une inductance. Et les propriétés de ce système sont très intéressantes parce que au lieu d'avoir deux minima séparés par un quantum de flux, on a deux minima qui sont séparés par une distance en flux qui est à peu près 1/20 du quantum de flux. Et donc on supprime, en fait, par cette sculpture, en sculptant finalement le potentiel vu par la phase de la petite jonction, on arrive à supprimer une grande partie de cette sensibilité au flux. Le même genre d'astuce est développé dans ce qubit en phase où, dans sa dernière incarnation, ici, là, une petite jonction en fait, est rendue et passe dans le régime de phase par l'adjonction, c'est un peu comme le transmont, par l'adjonction d'une grande capacité en parallèle. Et donc ici, le squid est très hystérétique et on opère dans un état qui est métastable, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà donc les qubits en flux. Donc un dernier dispositif développé dans notre équipe à Yale, dans lequel on continue avec c'est un petit peu comme dans l'idée des qubits en flux de Delft, où finalement on utilise deux jonctions ici pour réaliser cette inductance qui chante la jonction. Ici, en fait, c'est tout un réseau de jonctions, 43 jonctions en réalité, qui vont servir d'inductance et qui vont chanter une petite jonction qui est un peu identique à celle du quantronium. Et ce qubit a toutes sortes de propriétés intéressantes dont je parlerai par la suite dans les leçons prochaines. Voilà un peu le paysage des différents atomes artificiels basés sur les jonctions Josephson. Et on peut comparer ce diagramme à une espèce de tableau périodique. C'est un petit peu comme le tableau périodique des atomes. On peut imaginer que ce rapport EJ sur EC, c'est comme le nombre atomique Z. Disons, l'atome devient de plus en plus lourd lorsque, disons, la capacité augmente, donc EC diminue, ce nombre devient de plus en plus grand. Il y a un autre nombre quantique qui définit la symétrie de l'état fondamental, et qui est plutôt ce rapport EL sur EJ, donc qu'on pourrait imaginer comme étant analogue à A, et qui, si vous voulez, ça serait un nombre qui définirait les interactions hyper fines. Alors évidemment, la grande différence avec les atomes, c'est que dans les atomes, A et Z varient de façon discrète, par pas entier, alors qu'ici, on peut faire évoluer ces paramètres de façon entièrement continue. Mais enfin, de ce qui se passe en physique atomique, on aime bien nommer ces atomes artificiels avec des noms qui rappellent ceux des éléments. Donc, le transmont, qui est plutôt assez inerte, est un peu comme un gaz rare et donc a reçu la terminaison ON. Alors que les quantroniums et fluxoniums ont plutôt des doublets assez bien marqués dans leur état fondamental et donc sont plutôt semblables à des alcalins. Alors ça, c'est le groupe d'atomes artificiels qui sont dans cette partie du diagramme. Vous voyez que les qubits en flux, eux, sont plutôt dans un coin opposé. Donc ici, on est plutôt du côté des rapports EJ sur EC modérés. Donc la charge est plutôt bien définie. Lorsqu'on va dans ce coin en bas à droite, ici, ce rapport EJ sur EC devient très grand. Et là, c'est le flux qui est un bon nombre quantique et les fluctuations de charge sont très grandes. Voilà, pour un peu le paysage, il faut prendre ces noms ici avec un peu d'humour. On voyait qu'on ne peut définir ici que des régions assez floues. Il n'y a pas vraiment ici dans ces noms la rigueur qu'il y a dans le tableau périodique de Mendeleïev. Tout va bien, je continue alors. Donc, il y a un concept que je voudrais exposer là qui est très important parce qu'on peut se dire que ce tableau périodique des atomes artificiels est très vaste, il y a quand même un guide qui permet de prévoir le spectre des atomes et qui est quand même très précieux. Alors, donc, si on se limite à un environnement le plus simple dans lequel il n'y aura que des capacités et que des inductances mises en parallèle avec la jonction, donc un modèle, les modèles les plus simples. Donc d'une manière générale, on va pouvoir écrire l'hamiltonien comme ceci. Donc il y aura trois termes, donc le terme cinétique, le terme de Coulomb, le terme Josephson, et puis le terme inductif linéaire. Vous voyez qu'en fait, on peut développer le cosinus ici et garder les termes d'ordre le plus bas. Et avec un changement de référence pour la phase, on peut arriver à cet hamiltonien ici qui va être quadratique. Ça va imposer une redéfinition de l'énergie Josephson. Et là, je vais me placer dans le cas où l'énergie Josephson renormalisée est toujours supérieure à EC pour que la phase soit relativement bien définie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fluctuation quantique de phase, mais en général, la phase va être plutôt un bon nombre quantique. Il y aura des grandes fluctuations du flux. Alors, à ce moment-là, on peut bien sûr voir qu'on est en présence d'un oscillateur harmonique et introduire un nombre de photons qui va être le degré d'excitation de l'atome. Finalement, N va être finalement dénote le niveau d'énergie dans l'atome. Tout ça permet de définir la fréquence plasma, ωp, qui est donc définie à partir de la moyenne géométrique entre l'énergie de Coulomb et l'énergie Josephson. Alors, je suis désolé, ici, il devrait y avoir un EJ' ici, puisqu'on travaille avec une énergie Josephson renormalisée. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, ça c'est un thème qui est assez constant dans toutes ces leçons, c'est qu'on passe en quelque sorte des opérateurs que l'on voit plutôt comme électroniques, comme décrivant les électrons, à des opérateurs qui décrivent des objets qui sont des bosons. Donc le N, finalement, c'est un nombre de paires de Cooper, et donc on a tendance à penser qu'il s'agit d'une représentation électronique du système, mais vous voyez que par cette transformation, ici, en introduisant ces opérateurs C et C croix, qui vont être des combinaisons linéaires de l'opérateur de flux et de l'opérateur de charge, eh bien, on arrive à des opérateurs qui obéissent aux relations de commutation des bosons. Et donc, dans cette représentation, le système est vu comme un oscillateur harmonique. Et donc, c'est un système bosonique. Alors, une autre remarque, c'est que finalement, cette charge extérieure ici, qui est le paramètre qui va nous permettre de nous coupler aux atomes, il faudrait le voir un peu comme l'équivalent du champ électrique, enfin du potentiel vecteur agissant sur un atome. Vous voyez que dans ce spectre, en fait, on peut montrer que le spectre de ce système harmonique va être indépendant de la valeur continue, c'est-à-dire la composante continue de cette charge extérieure n'affecte pas le spectre. Ça ne fait que translater la parabole qui décrit cette énergie cinétique et ça ne change pas le spectre. Ça, c'est une remarque extrêmement importante. Donc, dans cette approximation harmonique, la valeur continue de la charge extérieure n'influe pas du tout sur l'atome. Par contre, une variation alternative de ce paramètre ici va permettre d'effectuer des transitions entre les différents niveaux. Alors, donc, cette approximation harmonique, Et juste le départ de considérations plus intéressantes, parce que en fait, à ce stade, comme on l'avait vu, un oscillateur harmonique, un atome qui a des niveaux d'énergie équidistants n'est absolument pas intéressant. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir aller au-delà de cette approximation harmonique. Et en fait, c'est possible quand finalement les niveaux d'énergie de l'atome, de ces atomes artificiels, se prêtent à une approximation semi-classique. Et je vais donc vous exposer cette approximation. Vous la connaissez sûrement très bien. Donc, elle s'applique de façon merveilleuse dans le cas des atomes de Rydberg, donc qui est exposé ici, dont la physique est exposée ici au collège par Serge Haroche. Et je vais d'ailleurs me spécialiser aux atomes de Rydberg qu'on appelle circulaires. C'est-à-dire, c'est vraiment les atomes les plus simples qu'on puisse imaginer. Donc, il y a une charge, le noyau est une charge positive au centre. Et la fonction d'onde électronique de l'électron unique qui orbite autour de l'atome. Alors, les électrons des couches inférieures sont encapsulés ici dans cette charge centrale. On a un électron qui gravite à plusieurs, disons, nanomètres autour de cette charge centrale. Et la fonction d'onde est une espèce de tor. C'est-à-dire que la probabilité de présence de cet électron qui tourne peut être vue comme une espèce de tor. Alors, donc pour ce type d'atome, la théorie de Bohr, l'ancienne théorie, enfin c'était l'ancêtre du traitement quantique des atomes, était essentiellement exacte. C'est-à-dire que, en fait, il suffit d'écrire que l'énergie cinétique ici de l'électron le moment cinétique de l'électron est un nombre entier de h bar. Pour arriver à, disons, trouver tout ce qui est un. Tous les renseignements, toutes les caractéristiques de cet atome. À partir de cette simple relation, on en déduit d'abord le rayon. On peut arriver à déduire le rayon de l'atome en fonction de ce paramètre n qui est entier. Ici intervient une constante qui est le Rydberg. On peut trouver aussi l'énergie et on peut trouver aussi les fréquences de transition entre énergies successives. On peut aussi calculer dans cette approximation le moment dipolaire de transition entre deux niveaux. En fait, la façon dont on peut voir la chose, c'est que le potentiel en 1 sur R de la charge centrale ici est remplie par ces niveaux d'énergie. Et en fait, l'approximation que l'on fait ici, cette approximation semi-classique de dire simplement que finalement on quantifie le moment angulaire de cette façon, est valable lorsque la fréquence de transition, donc oméga 2, ça va être la fréquence de transition ici entre deux énergies successives, divisée par l'énergie, est petite par rapport à 1 sur h bar. Donc c'est une équation, vous voyez, qu'on peut écrire de façon purement classique, en quelque sorte. Classiquement, l'énergie serait la fréquence, disons, de rotation de l'électron autour de l'atome, qui est l'équivalent classique de la fréquence de transition entre deux niveaux d'énergie successive. On peut calculer cette fréquence classiquement et prendre sa dérivée par rapport à l'énergie. Donc, pour que cette approximation semi-classique puisse être employée, il faut que cette dérivée, il faut que la fréquence, finalement, de rotation de l'électron comme fonction de l'énergie, dérivée par rapport à l'énergie, soit petite par rapport à h bar. Vous voyez que cette dérivée partielle, ici, a bien la dimension de l'inverse d'une action. Et comme je le disais, c'est aussi équivalent, si vous pouvez reprendre cette équation et dire que, finalement, il faut que la différence de fréquence de transition entre qui porte sur trois niveaux successifs ici, soit petite par rapport à la fréquence moyenne. Alors, appliquons cette idée aux atomes artificiels basés sur les jonctions Josephson. Donc, si on prend EJ très supérieur à EC, en fait, cette condition veut dire qu'il va y avoir beaucoup de niveaux d'énergie dans le potentiel sinusoïdal de la jonction. Là, j'ai représenté un cas particulier où, finalement, on avait cette série de niveaux et j'ai représenté les différentes transitions possibles en allant de la transition de fréquence la plus élevée ici, donc indiquée en violet, et puis la transition de fréquence la plus faible indiquée en rouge. Alors, si l'atome est chaud, si toutes les énergies sont peuplées, eh bien, une expérience d'absorption donnerait toutes ces lignes ici qui correspondent aux différentes transitions. Et l'approximation semi-classique revient à dire que la différence de fréquence entre deux transitions, alors c'est donc une dérivée d'ordre supérieur, hein, puisque finalement une fréquence de transition, c'est déjà une différence entre deux énergies. Là, je parle de la différence de fréquence entre deux transitions. Eh bien, si cette différence entre deux transitions successives est petite par rapport à la fréquence de transition elle-même, on est dans ce régime semi-classique. Et la situation devient beaucoup plus claire et beaucoup plus facile à appréhender analytiquement. Voilà un peu le cadre de l'approximation semi-classique. Alors, juste, je voulais vous... il est bon de voir par anticipation avec ce qui va se passer par la suite. Si on refroidit le système à basse température et si on ne peuple que l'état fondamental et qu'on répète cette expérience d'absorption, eh bien sûr, on ne verra pas toutes ces lignes ici, puisque seul l'état fondamental sera peuplé. On ne verra que la ligne, la transition de plus haute fréquence. Bien sûr, puisqu'on est capable de manipuler la population de ces atomes, on verra ça par la suite, on peut passer de l'état fondamental à l'état excité. Et dans ces conditions, en fait, on peut voir à ce moment-là deux raies de résonance, deux raies d'absorption, pardon, une raie qui reste, disons, positive, hein, qui correspond à cette absorption ici. Par contre, la raie qui était positive dans le cas précédent devient s'inverse puisqu'on a réalisé une inversion de population ici pour le niveau. Donc on verra ces considérations par la suite. Alors donc j'arrive maintenant à un point extrêmement important. Il y a une courbe qui caractérise cet atome artificiel qui est très importante. On peut calculer classiquement la fréquence d'oscillation d'une particule dans un potentiel en forme de sinusoïde en fonction de l'énergie. Alors là, j'ai pris un système fermé. Hein. On considère uniquement une jonction Josephson et on la traite de manière classique. Donc, si on trace la fréquence, disons la période des oscillations dans ce puits sinusoïdal en fonction de l'énergie, on obtient cette courbe ici. Donc, si on avait un oscillateur harmonique, cette courbe serait une droite qui serait plate ici. La fréquence ne dépendrait pas de l'énergie. Mais comme le potentiel est anharmonique, on a une décroissance cette fréquence de transition, de cette fréquence d'oscillation, pardon, là il n'y a pas de mécanique quantique, de cette fréquence d'oscillation avec l'énergie. Et ici, la fréquence ici s'annule lorsque l'énergie devient 2EJ, qui est finalement la hauteur du puits ici. Lorsque l'oscillation atteint le haut de la barrière, eh bien, le ralentissement extrême, la particule en fait a tendance à s'arrêter ici et donc la fréquence tend vers zéro. Alors la fréquence plasma ici est définie comme la fréquence du système pour l'énergie nulle. Hein. Alors maintenant, cette courbe va nous permettre de préciser ce qu'on entend vraiment par non-linéarité, parce que la définition de la non-linéarité d'un système est qu'elle est un concept qui est très différent classiquement et quantiquement. Alors, classiquement, il n'y a pas vraiment d'échelle de non-linéarité pour ce système si on ne le force pas. Si on considère que ce système est complètement isolé, qu'on a juste une particule qui oscille dans ce potentiel, il n'y a pas véritablement d'échelle propre pour la non-linéarité. Elle apparaît, par contre, si on force le système et si on lui fait subir, si on fait subir à l'énergie des oscillations. Supposons qu'on force le système par une force extérieure et que, à cause, par exemple, de la fréquence particulière de cette force extérieure, l'énergie du système varie. Si on a une amplitude de variation de l'énergie, ici, on va avoir une variation de la fréquence propre du système. Alors, classiquement, le régime de non-linéarité forte, c'est lorsque ces excursions en fréquence, ici, seront supérieures à l'amortissement du système. Donc, il faut donc, non seulement pour définir cette non-linéarité classique, avoir une force extérieure, mais il faut aussi avoir un amortissement extérieur. Donc, vous voyez, il y a une espèce de compétition entre le forçage et l'amortissement qui permet de définir les conditions de non-linéarité forte. Je rappelle donc que les excursions en fréquence doivent être supérieures à ce taux de relaxation du système. Maintenant, quantiquement, la situation est complètement différente. On va discuter la situation dans cette approche semi-classique. Donc, dans cette approche semi-classique, on va considérer que l'énergie ici est quantifiée, donc elle ne va prendre que certaines valeurs ici. Et donc, ces valeurs sont données par H bar oméga, mais oméga, vous voyez, au départ ici, on sait très bien ce qu'il est. C'est oméga est très proche de oméga 0. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai reporté la valeur de oméga 0, j'ai multiplié par h bar et ça me donne une échelle ici en énergie pour les états. Maintenant, à chaque énergie, je peux regarder à quelle fréquence cette énergie correspond et en reportant cette fréquence ici sur cet axe, j'aurai l'apparition de ces différentes transitions du système. C'est un petit peu la théorie du pauvre ici qui me permet de calculer les différentes fréquences de transition du système. Vous voyez que la séparation entre ces différentes fréquences de transition ici va dépendre de la pente, un paramètre très important du système. C'est la pente de cette variation et on peut calculer cette pente exactement pour n'importe quel potentiel. Et pour le potentiel cosinusoïdal, en particulier, on trouve ce facteur 1/8 ici. Si vous choisissez un autre potentiel, vous aurez un autre coefficient. Pour la sinusoïde, c'est 1/8. Ce 1/8 va intervenir de la façon suivante. Donc, une façon de voir, très utile de voir la jonction Josephson dans cette approximation semi-classique, c'est de se dire qu'elle est composée d'une inductance pure qui va fixer finalement la fréquence à énergie nulle du résonateur dans lequel on va mettre cette jonction Josephson. Et puis, en série avec cette inductance pure, on va imaginer qu'il y a un composant purement non linéaire. C'est une self qui varie finalement quadratiquement avec l'énergie du système. Cette self varie linéairement avec l'énergie du système. Elle varie quadratiquement avec le courant qui passe dans le circuit. Et cette inductance non linéaire en série avec la jonction obéit une formule, disons, très pratique. Ici, on peut la voir, on peut dire que c'est l'inductance de la principale de la jonction, Lj, divisée par 8, multipliée par le rapport entre le courant qui passe dans le système au carré sur le courant critique au carré. Où on peut le voir, on peut voir aussi ce coefficient comme le rapport entre deux énergies, l'énergie, disons, magnétique du système et l'énergie Josephson. Alors, maintenant, on va pouvoir définir une énergie intrinsèque non linéaire pour ce système. Alors, la façon dont ça va se passer, c'est qu'on va calculer, dans cette approximation semi-classique, cet écart d'énergie. On va calculer l'écart d'énergie entre deux transitions. Alors, donc, on utilise, c'est un petit calcul extrêmement simple, on calcule la fréquence de transition entre deux états successifs. Donc, vous voyez, c'est simplement une fonction qui fait intervenir n, le numéro de l'état considéré. En effectuant cette soustraction, on isole ce terme ici. Et puis, on calcule de la même façon le terme suivant. Et finalement, on va arriver à cette relation extrêmement intéressante qui nous permet de voir que, quand on remplace finalement, on voit que h-bar se simplifie dans cette expression. Et finalement, tout disparaît. On se retrouve avec uniquement la capacité de la jonction. Donc, cette échelle non linéaire, cette échelle de, disons, la distance entre deux transitions de l'atome Josephson dans cette approche semi-classique, c'est tout simplement cette énergie de Coulomb. D'ailleurs, c'est, disons, la raison pour laquelle on a choisi l'énergie de Coulomb avec un électron et pas deux, c'est qu'ici, par exemple, entre autres, cette formule est relativement simple ici. Donc maintenant, on a ici, sans forçage, on a une condition stricte sur la non-linéarité du système. Donc on a une non-linéarité faible pour ce système quantique si cette énergie non-linéaire du potentiel, donc l'énergie de Coulomb, est inférieure à finalement la largeur d'énergie des niveaux due à la relaxation ou si elle est supérieure. Donc vous voyez, c'est une propriété très intéressante des systèmes quantiques, c'est que la quantification de l'énergie impose une échelle qui permet de discuter le caractère non linéaire en absence de forçage du système. Il est, avant même d'être forcé, le système est fortement non linéaire ou non. Voilà. Donc maintenant, je voudrais attaquer après avoir exposé cette analyse semi-classique, je voudrais exposer maintenant son application à la lecture des bits quantiques. Alors ça, c'est un problème qui a occupé beaucoup d'équipes pendant de nombreuses années. C'est un problème absolument central à ce sujet. Ça mérite qu'on y consacre un peu de temps. C'est un problème très général de circuit électronique. On veut fabriquer un circuit qui se comporte comme un atome artificiel, mais il ne peut pas être complètement isolé pour être parfaitement cohérent. À un moment donné, on va vouloir lire l'état du système. Donc il va falloir le brancher par une espèce d'interrupteur à un autre circuit dont la fonction est un petit peu celle d'un mesureur d'état qu'on peut imaginer comme une aiguille ici, qui peut pointer dans deux directions, une direction 0 ou une direction 1. On aimerait d'ailleurs que ce circuit, on aimerait que l'aiguille, que ce circuit, lorsqu'il lit le qubit, a deux positions pour l'aiguille, deux positions stables, hein, et que la position intermédiaire ne soit jamais obtenue. Ça définit les caractéristiques du readout. Et donc, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'interrupteur est off, ce circuit de lecture soit parfaitement isolé du qubit pour ne pas affecter sa décohérence. Par contre, lorsqu'on va brancher cet interrupteur, lorsqu'on va mettre en contact le circuit de lecture avec le qubit, il y aura une lecture parfaitement fidèle. C'est-à-dire que si le qubit était dans l'état 1, eh bien, le readout va être dans l'état 1. Si le qubit est dans l'état 0, l'aiguille ici pointe vers le 0. On veut une correspondance, on veut une espèce de transformation parfaite entre l'état quantique du qubit et l'état classique, finalement, de cette aiguille pour le circuit. Alors, en pratique, d'ailleurs, cette aiguille va être la phase d'une oscillation de ce circuit, et finalement cette idée d'aiguille, de variable de mesure, est assez correcte. La fidélité, et on l'a définie de cette façon, la fidélité essaye de déterminer le rôle de ces transitions parasites. Il peut y avoir des faux états 1 qui sont finalement obtenus à partir de l'état 0, mais avec une lecture qui est perturbée ici par le long de cette flèche qui va verticalement. Et on a cet autre type d'erreur indiqué par cette autre flèche sur l'état 1. Et donc, la fidélité, c'est 1 moins la somme de ces deux erreurs. Donc, le circuit de lecture doit obéir à deux caractéristiques. On veut que cet interrupteur soit de meilleure qualité possible, c'est-à-dire que lorsqu'il soit off, il soit vraiment off, et lorsqu'il soit on, le contact soit vraiment très bon. Donc un couplage, une grande dynamique dans le couplage entre le circuit de lecture et le qubit. Et on veut aussi que cette lecture ici se fasse avec le maximum de fidélité. Et ce problème est un problème très complexe, et en fait il y a deux stratégies pour le résoudre. Donc la première stratégie qui est principalement utilisée dans le groupe de John Martinis au NIST et maintenant à Santa Barbara, c'est d'utiliser en fait un potentiel pour la phase qui présente un minimum, mais un minimum local seulement, de telle sorte que l'état 0 et 1 de l'atome artificiel soit métastable. Et en fait, on peut arranger les choses de façon à ce que l'état 0 vive beaucoup plus longtemps que l'état 1. C'est assez facile de comprendre comment, puisque la barrière de potentiel ici est plus étroite pour l'état 1 ou pour l'état 0, donc la sortie par effet tunnel peut être beaucoup plus rapide. Et donc, on peut considérer ici que lorsque l'état 1 se désintègre, le système va évoluer extrêmement rapidement. La particule représentant le système va dévaler cette colline ici. Il sera très facile de détecter ce mouvement. Donc, on a essentiellement un système qui a une très bonne fidélité parce que l'état 0 est inerte, il ne donne aucun signal, alors que l'état 1 va donner un signal très important. Donc, C'est finalement la dynamique, la fidélité de ce système est obtenue ici par, en sacrifiant quelque chose, puisque cet effet tunnel qui détruit l'État ici va conduire, va quand même donner une certaine largeur à l'État, et donc il y a une petite contribution de cet effet tunnel à la cohérence. Mais enfin, en pratique, elle est très faible. C'est plutôt ce qui joue contre ce système, c'est le fait qu'il est relativement difficile de maintenir ce système dans cette situation métastable avec une grande précision. Oui. Oui, c'est ça. Oui, alors, disons, il y a toujours dans un système de lecture, il y a toujours deux parties. Hein. Il y a la partie isolation, donc avoir un bon switch, et puis après, avoir un système amplificateur qui est très bon. C'est un peu ce que caractérise la fidélité ici. Hein. Il y a deux caractéristiques complètement séparés. Alors, donc, dans ce système ici d'utiliser la métastabilité des niveaux, ça garantit une très très bonne amplification. Hein, on peut comme ça obtenir une très bonne fidélité parce que ce qui va se passer pour le système va être très différent suivant qu'il est dans l'état 0 ou 1. Par contre, pour l'isolation, cette stratégie n'est pas particulièrement avantageuse. Elle est très avantageuse sur le plan de l'amplification. Le système est en fait lui-même son propre amplificateur. Lorsque cet effet tunnel va se produire, ici, il va y avoir une énergie considérable qui va être libérée tout d'un coup et qu'il est très facile de détecter. Mais la raison pour laquelle elle n'est pas employée par tout le monde, c'est justement parce que pour la question de l'isolation n'est pas particulièrement bien obtenue pour ce système. Alors, donc, la stratégie concurrente, qui est celle employée à Yale, par exemple, et qui a été justement inventé dans notre laboratoire, c'est la stratégie dispersive, qui n'est pas du tout basée sur des états métastables. Là, il s'agit d'atomes qui vont être tout à fait, qui vont avoir une durée de vie infinie. La stratégie est très différente. Donc, on va essayer de protéger le circuit du qubit au maximum en intercalant entre lui et le milieu et l'environnement des filtres très sélectifs qui vont laisser passer en fait une seule fréquence, une fréquence de lecture qui a la propriété d'être très différente, enfin idéalement la plus différente possible de la fréquence de transition du qubit. Donc, il est très important, justement, que le filtre bloque toute radiation qui soit justement à la fréquence du qubit, qui changerait donc sa population. Alors, donc, en munissant le qubit d'une porte étroite en fréquence, on peut envoyer ce signal, et en quelque sorte, l'amplitude de ce signal constitue cet interrupteur qui va mettre le qubit en relation avec l'extérieur, c'est très pratique puisque c'est l'amplitude, donc cette fonction d'isolation est réalisée en contrôlant l'amplitude du signal d'entrée. Donc ce signal d'entrée va être réfléchi par le qubit et va subir un changement de phase qui va dépendre de l'état du qubit. Suivant qu'il est dans l'état 0 ou 1, il y aura un changement de phase et on pourra détecter comme ceci l'état l'état du système. Alors, cette stratégie est particulièrement intéressante parce que le circuit du qubit lui-même ne va pas ne va pas donner des... On n'excite pas le circuit du qubit, il n'y a pas d'excitation, contrairement donc dans cette stratégie où lorsque cet état se désintègre, il donne énormément d'énergie sur le chip. Donc cette situation est un petit peu plus saine en termes de, disons, de ne pas soulever la poussière au niveau de l'échantillon. Et elle va bien fonctionner si trois conditions sont réalisées. Donc, la première condition, c'est que ce filtre ici doit être un très bon filtre. Il doit bien isoler l'atome à toute fréquence, sauf à la fréquence de la lecture. Donc, on veut un filtre d'une très bonne sélectivité. On veut avoir un très bon amplificateur, puisque là, il va falloir détecter un changement de phase en général assez faible sur les signaux envoyés. Donc, on veut avoir le maximum rapport signal sur bruit dans cette mesure. Et puis, une fois que ces deux conditions seront réalisées, il faudra envoyer en fait suffisamment de photons. Ici, il faut que le signal d'entrée soit suffisamment intense pour qu'on puisse discriminer ces deux valeurs de la phase du signal sortant. Donc, ces trois conditions doivent réaliser à la fois. Et on est encore en train d'essayer de comprendre comment cet optimum, ces trois conditions peuvent être réalisées simultanément. Je vais arrêter cette leçon ici et je continuerai la prochaine fois avec justement l'examen de ces trois conditions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.